Bonjour, vous êtes sur Radio B, la radio des bonnes ondes, 90.0, dans l'émission Musique au pluriel, animée par Bruno Point et Paul Turchet. Notre première émission de cette émission, si je puis dire, était consacrée à Beethoven, dont nous avions dit qu'il s'agissait d'un titan de la musique, d'un géant. Nous allons aujourd'hui nous consacrer à Johannes Brahms, qui est à sa manière un autre titan. C'est le titan, sans doute, du romantisme allemand en musique et du romantisme tout court. Johannes Brahms, né en 1833 à Hambourg, va avoir une carrière au cours de laquelle il va composer pour tous les instruments. La seule chose qu'il ne fera pas, ce qui lui évitera de trop s'opposer à Wagner, c'est l'opéra. Brahms, né en 1833 donc à Hambourg, et il est issu d'une famille très, très ramifiée, et son père Jacob est artisan et fait de la musique pour améliorer l'ordinaire de la famille. Il joue du cor, de la contrebasse, se produit à Hambourg dans des tavernes. Et c'est comme ça que le jeune Johannes va rencontrer la musique. Il va manifester, bien sûr, des dons extrêmement précoces. Il va étudier le piano avec un professeur, puis la composition, l'harmonie, le contrepoint avec un autre. Et va, bien sûr, tomber en émoi devant les œuvres de Bach, de Mozart, et puis aussi, bien sûr, de Beethoven. Et il va composer des œuvres, se faire connaître comme un pianiste virtuose, jeune virtuose, qui donne des concerts très jeunes, qui dirige dans sa ville natale des chorales. C'est un petit garçon culotte courte qui dirige des chorales d'adultes. C'est impressionnant. Et il va donc composer, après avoir fait son premier concert en 1848, une série d'œuvres. Il y a eu 135 numéros d'opus de Brahms, qui est conséquent mais pas gigantesque. Et nous allons d'abord écouter, avant de vous dire qu'il va rencontrer Schumann à 20 ans. C'est une rencontre majeure à plein d'égards. À 20 ans, il vient chez les Schumann, il joue sa première œuvre, qui est l'opus 1, qui est sa première sonate pour piano. Schumann écrit dans ses carnets, aujourd'hui, visite du jeune Brahms, un génie. Il a 20 ans, écoutez cette œuvre déjà flamboyante, qui contient en germe tout ce que Brahms va composer. C'est flamboyant, c'est riche, c'est puissant, ça avance, c'est polyphonique et c'est magnifiquement romantique. Donc, première sonate de Brahms, la fin du premier mouvement de cette première sonate. Thank you.
Le final de ce premier mouvement, de la première sonate de Johannes Brahms, est extrêmement intéressant et à écouter dans le détail et à positionner dans l'époque. On a souvent, et dès ces premières années de grands compositeurs, on a parlé de la filiation avec Beethoven. Donc on voit la charpente musicale. Par contre, le classicisme, puisque Beethoven c'est 50 ans avant, a disparu et nous sommes rentrés dans le romantisme. Donc on a vraiment des moments d'extase, des moments qui d'ailleurs sont à mettre en parallèle avec Schumann. On est dans un même esprit que Schumann et pas d'influence de Schumann parce qu'à 20 ans, Brahms ne connaissait pas suffisamment les compositeurs de son époque. Donc on est sur un compositeur qui s'affirme de lui-même. Et on voit dans cette première sonate toute la musique qu'il va écrire à la suite. Et on voit aussi, pour parler des personnes importantes, Brahms a donc 20 ans quand il l'écrit. Paul l'a dit, il rencontre Schumann, qui va être une des grandes rencontres de sa vie, et nous y reviendrons. Il rencontre aussi un très grand violoniste avec qui il va faire un parcours considérable, Joseph Joachim, qui est déjà connu et qui va le présenter ni plus ni moins qu'à Franz Liszt. Donc nous avons, au cours de ces émissions, fait des émissions sur Beethoven, nous avons fait des émissions sur Liszt, nous avons fait une émission sur Schumann, et nous bouclons un peu ce quatuor des grands compositeurs de cette époque, au sens large, avec Brahms. Eh bien, Brahms et Liszt, c'est pas la même musique. Et à l'époque, lorsque Johannes Brahms rencontre Liszt, Liszt lui joue sa sonate, il n'est pas impressionné. Le débat va d'ailleurs s'enclencher beaucoup plus par la faute des partisans de l'un et de l'autre. C'est souvent comme ça, les grands hommes ont des partisans et les partisans s'étripent, alors que les grands hommes ne sont pas forcément en opposition. Mais toujours est-il que dès cette époque vont se tracer deux routes apparemment différentes, celle de Liszt qualifiée de novateur et celle de Brahms de classique, ce qui est aujourd'hui, vu avec le recul, complètement faux. Ils sont novateurs tous les deux et héritiers des classiques tous les deux. Eh bien, maintenant, écoutons une œuvre de jeunesse aussi, la première ballade Opus 10, jouée par Claudio Arrau.
après avoir rencontré Schumann, qui va beaucoup faire, bien sûr, parce que Schumann écrit dans une revue musicale pour diffuser son œuvre, Brahms va vivre une vingtaine d'années entre 1857 à 75 à Vienne, où il va s'installer et rester définitivement jusqu'à sa mort. Il compose beaucoup pendant cette période, tout en ayant une vie très, très placide. Il est professeur de musique à la cour du prince Léopold III. Et puis, surtout, il gagne beaucoup d'argent en rencontrant un éditeur qui va publier sa musique, Fritz Simrock. Et Brahms va finalement vivre toute sa vie, principalement de ses concerts qu'il donne, y compris avec Joachim, dont parlait Bruno. Il fait des farces à Joachim, d'ailleurs, pendant les concerts. Brahms transpose la tonalité du morceau dans une autre tonalité, ce qui immédiatement oblige Joachim à transposer lui aussi pour que ça ne devienne pas une cacophonie. Il est assez farceur, mais il sera fiancé, il ne se sentira pas capable d'avoir une relation suivie, et puis Bruno en parlera, il tombera manifestement amoureux de Clara Schumann. Et donc, il vit très bien de ses concerts. C'est un des rares musiciens à en vivre aussi bien, grâce à cet éditeur. Et puis, il va composer des grandes œuvres déjà, Concerto pour piano, le premier, qui n'aura pas un grand succès. 20 ans plus tard, il fera un second concerto qui, lui, aura du succès. Il compose le Requiem, commence à composer le Requiem allemand. Et il continue, bien sûr, à composer pour le piano avec trois séries de très belles œuvres, l'opus 116, 117 et 118, qui sont des Klavierstücke. Nous allons écouter l'intermezzo numéro 2, qui est une musique magnifique, polyphonique, avec beaucoup de contrechamps, une musique crépusculaire qui invite à la méditation. Thank you.
quelques mots sur cette interprétation. Il s'agissait de Glenn Gould, je dirais presque le Dali du piano, qui lorsqu'il joue Brahms, lorsqu'il joue Beethoven, lorsqu'il joue un concerto de Mozart, est absolument lumineux et on oublie toutes les facéties que l'on nous a beaucoup montrées à la télévision de ce personnage qui est un immense musicien mais qui a une part de comédie assez hallucinante. Maintenant, venons-en à ces rencontres exceptionnelles, celle de Brahms avec Schumann. Brahms a vécu chez les Schumann. Paul l'a dit, il a été beaucoup porté par Schumann dans ses écrits. En tout cas, ils ont une relation musicale et amicale fusionnelle. Et nous avons parlé déjà beaucoup de Schumann et de Clara, ce couple fusionnel aussi. Malheureusement, Schumann s'éteint assez rapidement en 1856, 20 ans néanmoins après leur... très peu de temps après leur rencontre, pardon. Et donc, Schumann va laisser un vide terrible pour Clara, qui néanmoins a une énergie telle qu'elle va reprendre les concerts, qu'elle va beaucoup jouer, qu'elle va avoir une carrière extraordinaire et elle sera portée par le souvenir de son mari et par sa musique. Toutefois, on peut parler d'une histoire d'amour entre Johannes Brahms et Clara Schumann. Fultilamment, nous n'en savons rien, mais en tout cas, leurs écrits, leurs échanges, leurs rencontres manifestent une admiration et très certainement beaucoup d'amour. Et c'est bien une histoire absolument merveilleuse parce qu'elle va durer jusqu'ils vont mourir en 1896-97, presque en même temps, tout en se rencontrant régulièrement. Et Clara va beaucoup jouer Brahms. Donc nous avons là vraiment deux comètes qui ont traversé ce 19e siècle et qui laissent des traces musicales impressionnantes. Faisons un petit peu une synthèse de cela en écoutant une œuvre de Brahms qui s'appelle « Les variations sur un thème de Schumann ». Écoutons le thème et 9 variations. Thank you.
Bruno a ébauché la question, revenons-y quelques instants, c'est cette querelle presque interminable qui, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, a opposé les compositeurs. Tout naît de l'idée que Liszt, qui vouait une admiration sans borne à Wagner, et Wagner lui-même, se fonde de ce que doit être ou devrait être la musique. D'où cette querelle entre les anciens et les modernes, entre les conservateurs et les novateurs, etc. Voilà, tout cela va animer les revues musicales de l'Allemagne, de la France aussi, parce que d'un côté, il y a donc les classiques, qui sont des romantiques, mais qui sont dans la tradition, effectivement, de Beethoven. Il y a Schumann, il y a Mendelssohn, il y a Brahms, il y a Joachim, et il y a le grand chef d'orchestre Hans von Bülow. Et de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle la nouvelle école allemande, fondée par Liszt et Wagner, qui réfléchissent à la musique symphonique et à ce qu'elle doit être. Et il y a donc Liszt, il y a Wagner, il y a Alcan, il y a en France Berlioz, et puis en France aussi, mais un petit peu au milieu du gué, Debussy qui va se passionner pour Wagner et qui ensuite va revenir un petit peu sur son opinion. Il n'en dira finalement pas beaucoup de bien plus tard. Donc voilà, et ça va... Bruno insistait sur la stupidité, mais voilà, on veut toujours avoir raison. C'est stupide, mais ça va animer toutes les gazettes musicales presque de l'Europe entière et surtout, bien entendu, de l'Allemagne. Et on va s'écrire des mots qui ne sont pas du tout gentils, qui sont à la limite de l'insulte. Wagner, par-dessus tout, méprisant un petit peu tout le monde, sauf lui. Brahms sera partisan de cette musique, on va dire classique, devenue romantique, mais finalement, il continuera son bonhomme de chemin parce que, je le disais au début, il n'a pas composé d'opéra. Donc, quelque part, il ne peut surtout pas être un rival de Wagner. Alors, pour sortir un petit peu de cette querelle et rester dans la droite ligne de la beauté d'écriture de Brahms, nous allons écouter la Rhapsodie, qui est très célèbre, il y en a deux, dont celle-ci, la Rhapsodie opus 79, numéro 2, c'est du beau piano, classique, romantique, novateur ou pas, peu importe, nous nous faisons plaisir. Thank you.
Nous avons écouté des œuvres pour piano. Brahms, rappelons-le, était un formidable pianiste. Notre prochaine émission sera consacrée aux œuvres pour piano, orchestre et violon et orchestre, les concertos, ainsi que les symphonies et les musiques pour chœur. Il nous faut parler, bien sûr, d'un pan considérable de la musique de Brahms, en l'occurrence sa musique de chambre. Et là, n'oublions pas aussi qu'il était concertiste et qu'il a beaucoup fait de concerts et produit ses œuvres en trio, en piano et violon, notamment avec Joseph Joachim. Mais toutes les œuvres n'incluent pas le piano. Il a écrit de très nombreuses œuvres pour musique de chambre, pour piano et violoncelle, piano et clarinette. La clarinette est très usitée, en trio aussi. Des quintettes à cordes, des quatuors et des quatuors avec piano. Écoutons un extrait du piano quintet, donc le quintet avec piano, le scherzo du quintet opus 34. Thank you.
C'est tout Brahms, pulsation rythmique, beauté des thèmes, des mélodies, polyphonie. Il est normal que Brahms ait fini les 20 dernières années de sa vie en étant tout à fait respecté et même plus adulé. C'est une personnalité influente. On lui propose des présidences, d'être membre d'honneur, d'académies, de sociétés savantes et autres. De cela, il reste très modeste. Il n'est pas comme Wagner, l'orgueil démesuré. Il fait son travail de musicien et il dit « Je préfère penser à une belle mélodie que recevoir l'ordre de Léopold. » C'est tout dire. Brahms meurt le 3 avril 1897, à 64 ans. Il est enterré à Vienne et il restera, bien entendu, une personnalité, un compositeur qu'il n'est pas possible d'oublier. Nous allons écouter une danse hongroise en écoutant successivement avec un clin d'œil à Xifra, ce grand pianiste avec qui nous avons consacré une émission. Et Xifra qui la joue au piano, la danse hongroise numéro 3, numéro 5, et puis dans la foulée, dans une orchestration et jouée par Karajan. Thank you.
Nous avons écouté au cours de cette émission Christian Zimmermann dans le final du premier mouvement de la première sonate de Brahms, puis Claudio Arrao dans la ballade numéro 1, ensuite Gengould dans l'intermezzo numéro 2, puis Nikolaï Louganski dans 9 variations des variations sur un thème de Schumann, qui en comprennent 16, et plus le thème bien sûr. La deuxième rhapsodie par Nikolaï Angelich, puis le scherzo du quintet opus 34 par Maurizio Pollini et le quartetto italiano, et enfin 2 versions de la danse hongroise, un petit clin d'œil que Xifra faisait à Brahms, qui, n'oublions pas, a démarré avec son père à jouer dans les cirques et dans les bars, tout comme Xifra jeune. Et enfin, l'ébouriffante version d'Herbert von Karajan à la tête du Philharmonie de Berlin. Prochaine émission, une deuxième émission sur Brahms. À bientôt, d'ici là, sur Radio B, écoutez toutes les émissions musicales et autres sur Radio B. À bientôt.
À bientôt.